un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la sortie du livre de Pierre Milza sur Napoléon III, Un jour dans l'histoire s'était arrêté sur une date majeure de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire européenne, la guerre de Crimée. Majeur car ce conflit sonnait le glas de l'Europe du Congrès de Vienne, la fameuse Europe de la Sainte Alliance. La Russie perdait son rang de première puissance du continent, tandis que la France recouvrait la gloire de l'époque napoléonienne. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur une autre date tout aussi importante et peut-être même plus encore. Elle est un tournant de l'histoire des relations internationales du XIXe siècle. Il s'agit de la bataille de Sadowa, qui vit la victoire de la Prusse sur l'Autriche, nous sommes le 3 juillet 1866. Cette date est intimement liée à l'œuvre d'Otto von Bismarck, souvent caricaturé, considéré comme un froid calculateur, détesté des Français et boudé même par l'historiographie. Le fondateur de l'unité allemande fait l'objet aujourd'hui d'une nouvelle biographie écrite par un des plus grands spécialistes français de l'Allemagne, Jean-Paul Bled. Jean-Paul Bled, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous y êtes titulaire de la chaire d'histoire de l'Allemagne contemporaine et des mondes germaniques. Je vous reçois pour la deuxième fois au micro d'Un jour dans l'histoire, au micro de Canal Académie. Nous avons en effet réalisé une première émission à la suite de la sortie de votre biographie consacrée à Frédéric II de Prusse, paru chez Fayard, une émission que vous pouvez retrouver dans la médiathèque de Canal Académie. Et vous venez donc de publier chez Alvic Éditions, Alvic est une jeune maison d'édition, une biographie de Bismarck sous-titrée « De la Prusse à l'Allemagne ». Est-ce que Jean-Paul Bled, Bismarck, est un personnage au fond incontournable pour un germaniste comme vous?
La question, je crois, n'est pas de savoir si c'est pour un germaniste comme moi, pour tout germaniste et pour, je dirais, tout homme cultivé ou toute femme cultivée qui s'intéresse à l'histoire de son pays, à l'histoire de l'Europe. Bismarck est une figure essentielle. Et vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, on y reviendra évidemment, que Sadowa était une date majeure dans l'histoire de l'Allemagne, dans l'histoire de l'Europe centrale. Et par ricochet sur l'histoire de la France, donc bien sûr ça nous ramène à la figure de Bismarck et c'est effectivement un personnage central, donc incontournable.
C'est un personnage même de notre histoire contemporaine finalement parce que la chute du mur de Berlin en 1989 est au fond une conséquence de son action à la fin du 19e siècle.
Oui, cette chute du mur de Berlin a rétabli l'unité de l'Allemagne. Alors évidemment, pas exactement dans la même assiette territoriale, sans doute, mais dans son principe, c'est l'unité allemande qui est rétablie. Ce qui veut dire que, de ce point de vue-là, l'histoire a donné raison à Bismarck.
Alors, avant d'aborder la question même de Sadowa, cette fameuse date de 1866 qui coupe le 19e siècle, je souhaite revenir longuement sur la personnalité, le parcours politique d'Otto von Bismarck. Et Bismarck, c'est un clin d'œil de l'histoire, vient au monde en 1815, l'année du Congrès de Vienne. Congrès de Vienne, finalement, qui va instaurer un ordre que Bismarck va s'employer à détruire.
Oui, et puis c'était aussi l'année du retour de Napoléon sur le trône, enfin, un retour évidemment éphémère, et bien sûr c'est l'année du Congrès de Vienne, des actes du Congrès de Vienne, qui construit un certain type d'Europe que, effectivement, Bismarck et Napoléon III, ou Napoléon III et Bismarck, vont travailler à défaire. C'est une première rencontre des deux hommes, une rencontre d'ailleurs ou des rencontres qui ne sont pas toujours conflictuelles. Évidemment, nous avons toujours, par la force des choses, et c'est normal, présent à l'esprit le conflit de 1870, évidemment, la défaite de la France, la perte d'Alsace-Lorraine, etc. Bon, c'est dramatique, bien sûr, et on ne peut pas ne pas l'imputer, pour une large part, à Napoléon III. Et il y a eu donc là un affrontement. Mais l'histoire des relations entre les deux hommes ne ne se résume pas à ce conflit. Si, admettons, que l'histoire soit arrêtée pour l'un ou pour l'autre en 1866, eh bien, avant 1866, en Allemagne, dans les années qui précèdent, on présente souvent Bismarck comme un bonapartiste. Évidemment, aujourd'hui, on a du mal, si on ne se plonge pas, évidemment, dans l'histoire de ces années, on a du mal à l'imaginer, mais il n'en meurt pas moins que c'est un portrait qui est fait de lui, et il faut le dire aussi, c'est plus souvent un reproche qui lui est adressé.
Alors, revenons-en, si vous le voulez bien, Jean-Paul Led, aux origines. Qu'est-ce que l'Allemagne en 1815 ? L'Allemagne n'existe pas.
L'Allemagne, on peut dire effectivement que l'Allemagne n'existe pas, il y a un corps germanique. Bien sûr, hérité du passé, c'est une vieille formule, le corps germanique, mais qui s'applique encore. Ce n'est plus l'Empire, le Saint-Empire a disparu en 1806 et il n'est pas rétabli. Alors, sur les cendres, les ruines de ce Saint-Empire, on constitue une confédération germanique. Une confédération germanique qui comprend 39 États. Dans ces 39 États, il y en a deux qui sont plus important que les autres. L'un, beaucoup plus important, c'est l'Autriche. D'ailleurs, l'Autriche exerce la présidence de la Confédération germanique. Et l'autre, c'est la Prusse. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de royaumes, la Bavière, le Hanovre, le Württemberg, la Saxe, et puis ensuite d'autres États, jusque à des États tout à fait lilliputiens qui comptent moins de 100 000 habitants. Vous voyez, donc c'est tout très, très contrasté. Bon, c'est une confédération, donc, mais en fait, on peut dire que ce lien est extrêmement lâche. Et c'est une création de Metternich, cette confédération germanique, qui ne voulait pas rétablir l'Empire, mais qui voulait créer une structure que l'Autriche contrôlerait. Et d'emblée, ça pose le problème de la dualité entre l'Autriche et la Prusse. Tant que l'Autriche est en position de force, la Prusse a du mal à la concurrencer. Mais si l'Autriche connaît des difficultés, évidemment, le problème peut se poser dans des termes différents. Et quant à Bismarck, il va être très rapide à conclure à la nécessité de réviser les relations entre l'Autriche et la Prusse.
Alors venons-en précisément à la jeunesse de Bismarck. Il n'a pas eu visiblement une enfance facile. Vous le citez à plusieurs reprises. Dès ma plus tendre enfance, j'ai été un étranger dans la maison de mes parents et jamais je m'y suis senti vraiment chez moi. Et quelques plages plus loin, à propos de sa mère, il dit « Quand j'étais petit, je la détestais ». Quelle fut cette enfance ?
Mais justement, enfance difficile, oui. Dans un milieu partagé, c'est-à-dire que dans cette famille Bismarck, deux tendances, de courants, de traditions se réunissent, n'est-ce pas ? Il y a la tradition des grands propriétaires fonciers, disons pas grands propriétaires fonciers, parce qu'au départ, Bismarck n'est pas un grand propriétaire, il le deviendra par la suite, mais au début, c'est pas une grande famille nobiliaire. Mais en tout cas, c'est la famille des propriétaires fonciers, la tradition des Junkers. Et de l'autre, du côté maternel, c'est une tradition qui est nouvelle en Prusse, mais qui est déjà puissante. C'est la tradition des administrateurs, dirions des fonctionnaires, ou des hauts fonctionnaires, si vous voulez, aujourd'hui. Et il se trouve que le grand-père maternel de Bismarck fut un collaborateur, et un collaborateur assez proche, de Frédéric II. Donc vous voyez, il y a deux traditions qui s'unissent, et Bismarck, le jeune Bismarck en tout cas, entre les deux traditions a fait son choix, c'est celle de son père, c'est celle des campagnes,
des Junkers,
contre la ville. Il n'aime pas la ville et il restera dans cette disposition d'esprit jusqu'à la fin. Évidemment, il faudra qu'il s'adapte, c'est évident, mais il n'aimera pas la ville et il reviendra très souvent dans ce milieu milieu terrien. Il aime se promener, il aime à pied, se promener à cheval, dans cette nature. Et alors, pour ce qui est de la jeunesse et l'enfance, eh bien, elle a été dure parce que, bon, il a été placé dans un internat. C'est pas quelque chose de tout à fait exceptionnel à l'époque, évidemment, pour ces jeunes garçons de la noblesse. Mais enfin, il l'a pas très bien vécu. Il y avait une discipline assez dure. Et déjà, on découvre chez lui un esprit assez rebelle, à la fois conservateur et rebelle. Il unit des contraires très souvent. Et là, c'est le cas. Bon, il passe les examens de la carrière secondaire. Donc, il passe le fameux Abitur, qui correspond à notre baccalauréat, et puis il entre à l'université. Alors il va à l'université de Göttingen, et puis ensuite à Berlin.
En droit, c'est cela ?
En droit, exactement. Mmh. C'est pas un étudiant brillant.
Vous le présentez vraiment comme ayant une vie plutôt débridée.
Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut le dire. Il consacre peu de temps à l'étude, il fait le strict nécessaire, c'est-à-dire le strict minimum. Il va passer ses examens, n'est-ce pas, mais il les passe. Et le reste du temps, il le consacre à des beuveries, il le consacre à des duels, il est un très bon escrimeur. Voilà, donc c'est une vie d'étudiant certainement assez haute en couleur, si vous voulez, mais pas du tout consacrée à l'étude. Avec néanmoins une petite réserve, qui n'est pas sans intérêt, c'est qu'il a le goût d'histoire.
Et il a un professeur que vous citez, Arnold Ehren.
Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est pas le premier homme d'État, évidemment, à s'être intéressé à l'histoire, à avoir une culture historique. J'ai la faiblesse de penser qu'un homme d'État, par définition, doit avoir une culture historique, sinon il peut pas l'être. Je referme la parenthèse. En l'occurrence, Ehren l'a orienté sur la relation entre politique et économie. Et ceci a marqué et a compté ensuite dans son action. On le verra, par exemple, dans l'utilisation qu'il fait du Zollverein, par exemple. On le verra aussi dans au moment du passage du libre-échange au protectionnisme, plus tard, à la fin des années 70. Donc c'est un homme... Et puis alors ensuite, n'oublions pas que lui-même est un praticien de l'économie, puisqu'il prend en charge certains des domaines familiaux. Il les gère bien, d'ailleurs. Par la suite, il continuera, alors même qu'il exercera d'autres fonctions, il continuera à superviser la gestion de ces domaines. Et donc, il a une bonne connaissance de la chose économique.
C'est plus un pragmatique plutôt qu'un idéaliste. C'est absolument pas l'étudiant idéaliste.
Non. Et alors, non seulement ce n'est pas un idéaliste, mais ce n'est pas davantage un idéologue. Je crois que c'est aussi un élément qui le caractérise. Et du même coup, donc, comme vous le dites, c'est quelqu'un qui est tourné vers le pragmatisme. Il n'a pas d'idéologie. Et ça, on le retrouve tout au long de sa carrière. On évoquait tout à l'heure sa relation avec Napoléon III. Eh bien, les conservateurs prussiens, comme d'ailleurs tous les conservateurs européens de l'époque, rejettent Napoléon III, dans lequel ils voient un rejeton de la Révolution. Et le bonapartisme est vu comme un produit de la Révolution. Bon, Bismarck peut faire la même analyse, mais pour lui, elle n'est pas fondamentale, parce que ce n'est pas cela qui doit déterminer les choix politiques. Notamment, puisqu'il s'agit là des relations entre les États, se déterminent en fonction d'autres critères, c'est-à-dire les intérêts des États. Intérêts qui peuvent fluctuer en fonction des circonstances, et on ne peut pas mettre entre parenthèses la France sous prétexte qu'elle est dirigée par un Bonaparte.
Alors, il entre ensuite dans une administration.
Oui.
Ma foi, l'expérience est malheureuse.
Oui.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, il se situe davantage dans la tradition des Junkers que dans la tradition des administratifs. Je le cite, le fonctionnaire prussien est comme un musicien dans un orchestre, qu'il soit premier violon ou qu'il joue du triangle, sans voir et sans influencer l'ensemble, il faut qu'il joue sa petite partie comme elle est écrite pour lui, qu'il la juge bonne ou mauvaise. Mais moi, dit Bismarck, je veux faire de la musique comme je l'estime bonne ou je n'en ferai pas du tout. Il y a de l'ambition chez ce jeune homme ?
Oui, il y a certainement de l'ambition, sans qu'on puisse dire à ce moment-là, c'est-à-dire au moment qui correspond à ce texte, qu'il a déjà en vue, n'est-ce pas, qu'il sera le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Bon, nous sommes peut-être dans le monde de la prédestination, mais on n'ira pas jusque-là. Mais, ceci étant, il a des ambitions. Il ne les concrétise pas, il ne leur donne pas de forme, mais il a des ambitions certainement. Et là encore, dans ce texte que vous venez de citer, on retrouve cette volonté et aussi cet esprit d'indépendance qui le caractérise. C'est-à-dire qu'il veut bien entrer dans l'administration, mais il ne veut pas se couler dans un moule en administration. S'il occupe des postes relativement importants, ce sera pour marquer de son empreinte.
Alors comment entre-t-il en politique ? C'est ce que nous verrons, Jean-Paul Blett, si vous le voulez bien, après une première pause. À tout de suite.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des cinq académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait.
Le parcours.
La rencontre.
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Bled, professeur à la Sorbonne et auteur d'une biographie récente, donc sur Bismarck, intitulée donc Bismarck de la Prusse à l'Allemagne, chez Alvic Édition, jeune éditeur. Alors, nous évoquions la jeunesse et la formation de Bismarck. Venons-en à la politique, ou peut-être avant la politique, l'aspect religieux.
Oui.
C'est un des points que vous abordez. Et ma foi, c'est une des surprises de votre livre. On s'attend à tout. Bon, on connaît Bismarck pour notamment le Kulturkampf, mais l'aspect religieux et personnel de Bismarck est peu connu. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, alors, il est né dans un milieu protestant, bien entendu. Mais assez vite, il a pris ses distances avec la foi. Et on peut dire que lorsqu'on arrive au début des années 40, donc il a entre 25 et 30 ans, on pourrait le définir comme un sceptique. Et puis, il va avoir une expérience qui prend la forme d'une relation spirituelle, on peut le dire, avec une jeune femme de son milieu qui s'appelle Marie von Taden, qui est l'épouse d'un de ses amis, Maurice von Blankenburg. Et il est possible d'ailleurs qu'il ait eu pour elle un sentiment amoureux. Je ne l'exclurai pas. Mais en même temps, ce sentiment amoureux a été sublimé. Et Marie von Taden était une jeune femme très, très religieuse, qui appartenait au milieu piétiste, qui était très influent, très puissant dans le milieu de la noblesse prussienne. Et Marie von Taden est décédée. Et cette mort a profondément marqué Bismarck, qui à ce moment-là atteint la trentaine. Elle l'a marqué au point que elle l'a en quelque sorte retourné et que il est revenu à la foi, mais encore une fois protestante. Ce qui par conséquent n'est pas obligatoirement en contradiction avec la lutte qu'il mènera contre l'Église catholique et contre le Zentrum dans les années 70 dans le cadre du Kulturkampf.
C'est vraiment une page de sa jeunesse, on a l'impression qu'il tourne. Parce qu'après, il prend la décision de se marier,
tout à
c'est
fait,
ça
avec une amie d'ailleurs de Marie von Taden, laquelle, on le comprend facilement en lisant un certain nombre de textes, de lettres, elle a travaillé à ce mariage. Et ce mariage a eu donc avec une jeune fille qui s'appelait Johanna von Puttkamer, donc qui appartenait au même milieu, évidemment, des hobereaux poméraniens. Et ce mariage a été heureux. Et ce mariage a été en même temps très précieux, je dirais, pour lui. Parce que jusqu'à ces moments, cette période, donc la rencontre avec Marie von Taden, la rencontre avec Johanna von Puttkamer, c'est quelqu'un, ayant employé tout à l'heure l'adjectif débridé, sa vie a continué à débrider, alors même qu'il exerçait cette profession, on peut le dire, n'est-ce pas, de propriétaire terrien, il n'en aura pas moins qu'elle restait extrêmement débridée. Et ce mariage l'a en quelque sorte canalisé, lui a donné des repères, l'a stabilisé.
Le sens de la responsabilité au fond.
Oui, bien sûr. Il a eu assez vite des enfants, deux garçons et une fille. Et ce mariage a été heureux. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'ait pas eu des tentations. Il y en a une qui a eu une certaine importance avec une jeune comtesse russe, la comtesse Orlov. Il est incontestable qu'il l'a aimé, c'est resté platonique. Mais précisément, c'est resté dans ses limites parce que il avait épousé Johanna von Puttkamer, donc il était marié, et ce mariage le canalisait. Et il avait admis une fois pour toutes qu'il y avait des limites qu'il ne devait pas. Il n'avait pas le droit de franchir et il ne les a pas franchis.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Jean-Paul Bled, à la politique. Comment entre-t-il dans la politique et quelles options, quelles opinions prend-il et surtout, quelle position adopte-t-il en 1848 ?
Alors, il entre en politique peu avant la Révolution. dans le cadre de ce qu'on appelle la Diète Unie. Alors, cette Diète Unie, elle est réunie à l'initiative du roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, nous sommes en 1847. Il y a déjà, disons, une certaine fermentation politique. Et Frédéric Guillaume IV prend la décision de réunir cette diète. Alors, cette diète, elle est composée des élus des diètes provinciales. La Prusse est un ensemble formé de 8 provinces. Donc, on va réunir ces députés des diètes locales en une diète générale, n'est-ce pas, pour l'ensemble de la Prusse. Dans l'esprit de ces députés qui vont se réunir à Berlin, c'est un premier pas vers l'adoption d'une constitution et l'adoption d'un régime libéral. Dans l'esprit de Frédéric Guillaume IV, ce n'est pas ça du tout. Il est tout à fait prêt à recueillir des avis, des conseils de ses députés réunis à la diète, mais pas plus. Donc il y a un désaccord de fond. Or, Bismarck, lui, prend position en faveur de la thèse royale. Et d'emblée, il se place dans le camp conservateur. Il faut dire qu'à cette diète, ils sont deux, en tout et pour tout, à défendre cette position. Donc vraiment, il est tout à fait isolé, ce qui l'indiffère tout à fait, et qui ne le gêne pas pour dire ce qu'il a à dire.
Cela lui permet d'être remarqué aussi.
Ça lui permet d'être remarqué par le roi, évidemment. Alors, la révolution arrive. Bon, il est assez déçu, il faut le dire, de l'attitude de Frédéric Guillaume IV, qui compose avec la révolution, et Bismarck lui est sur une position d'opposition frontale. Il va même jusqu'à un moment, au tout début de la révolution, à penser mobiliser ses paysans et à monter avec eux sur Berlin pour rétablir le roi dans ses prérogatives. Le roi trouve ça très sympathique, mais considère que c'est hors de propos pour l'instant. Bon, enfin, il est toujours sur cette ligne, effectivement, très dure. Et il maintient cette ligne. Nous le retrouvons lorsque un grand nombre de Junkers, hostiles à la Révolution, vont se réunir et former ce que l'on pourrait appeler déjà le Parti conservateur prussien et lancer un journal qui va devenir un journal important de la vie politique prussienne, qui s'appelle la Kreuzzeitung, c'est-à-dire le journal, la Gazette de la Croix, c'est-à-dire la Croix de Fer. Et donc, là, il est catalogué comme un ultra-conservateur. Et d'ailleurs, Frédéric Guillaume IV a un mot écrit qui est très intéressant dans un document apparaît le nom de Bismarck et dans la marge, il écrit « à n'utiliser que lorsqu'il baïonnette parleront en maître ». Donc c'est très clair, c'est un ultra-conservateur, un ultra. Et je vous l'ai dit, il est déçu par Frédéric Guillaume IV. Ceci dit, à chaque fois que celui-ci paraît redevenir le roi, il le soutient. Et il va le soutenir, notamment, dans une affaire très importante pour lui, pour le roi, pour la Prusse, et aussi pour nous, pour notre réflexion, c'est Olmütz. Olmütz, qui est souvent présenté comme la reculade, l'humiliation d'Olmütz, c'était au terme de première phase de conflictuelle entre la Prusse et l'Autriche, et l'Autriche sortant de la Révolution, va imposer sa volonté à la Prusse, qui avait paru souhaiter déjà organiser l'Allemagne autour d'elle, indépendamment de l'Autriche. Et ça se termine à Olmütz, en Moravie, et l'Autriche reprend le dessus. Et Bismarck approuve Frédéric Guillaume IV d'avoir finalement cédé face à l'Autriche. Et ça peut paraître évidemment surprenant que cet homme qui va incarner la lutte face à l'Autriche, bien en 1850, paraisse incarner une toute autre ligne. Alors, s'il en est ainsi, c'est pas, lorsqu'on analyse les choses en profondeur, c'est pas du tout parce que il se transformerait en pro-autrichien, mais parce que le mouvement qui a été enclenché pour l'unification de l'Allemagne, même si le roi l'a patronné, lui paraît un mouvement d'essence libérale, ce qui veut dire pour lui d'essence révolutionnaire. Et il ne veut absolument pas d'une unité formée dans l'esprit de la révolution ou d'une révolution. Donc on retrouve le conservateur.
Et en fait, au fond, il désapprouve le libéralisme, enfin le nationalisme et la formation de l'unité allemande autour des idéaux libéraux.
Oui, absolument. Ça, il le rejette, mais en même temps, et c'est là qu'on va voir que cet homme n'est pas simplement un idéologue, parce que là, nous pourrions dire, sur ce que nous venons de voir, c'est plutôt l'idéologie qui le régit, on va le voir évoluer assez vite et arriver à des positions assez différentes de celles qu'il défendait en 1850-1951. Alors, immédiatement après, et ça c'est la récompense pour la fidélité qui a été la sienne à la couronne, il est nommé par Frédéric Guillaume IV comme ambassadeur auprès de la Diète fédérale de la Confédération germanique à Francfort.
Alors, quel va être Jean-Paul Bled, cette évolution, et puis le pragmatisme qu'il va mettre en œuvre, c'est ce que je vous propose de voir dans un instant. A tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Paul Bled, auteur de Bismarck de la Prusse à l'Allemagne, chez Alvic Éditions. Et nous évoquons donc l'ascension de Bismarck jusqu'à cette date de 1866, qui est une date où toute sa destinée va se jouer, comme nous allons le voir. Alors, nous en étions restés au fait qu'il est nommé ambassadeur, et là c'était un moyen de reconnaître toute sa compétence et surtout aussi sa fidélité, même si il gardait des relations non pas ambiguës mais pas forcément en accord avec Frédéric Guillaume.
Dès qu'il entre en fonction à Francfort, il va montrer l'autonomie de sa personne et de sa personnalité, parce que un ambassadeur, quel qu'il soit, si brillant soit-il, il applique les instructions qu'il reçoit de ses supérieurs. Et ses supérieurs, en l'occurrence, c'est le Premier ministre, le baron von Manteuffel, et puis c'est le roi. Alors je ne dis pas qu'il ne les applique pas. Parce que si, évidemment, les choses étaient allées si loin, il ne serait pas resté en fonction jusqu'en 1857.
Mais il impose un style, en fait.
Il impose un style et, très souvent, il détourne la politique et il défend une autre ligne que celle de Manteuffel et du roi dans ses correspondances. Donc, il cherche et réussit à marquer son temps de son empreinte. Alors, on peut dire que dès ce moment-là, dès Francfort, il est convaincu, et malgré la position qu'il a adoptée face à Olmütz, il est convaincu que la dualité austro-prussienne ne pourra pas être maintenue indéfiniment, et qu'il faudra qu'elle soit tranchée, sans doute par la force. Si on peut trouver un autre moyen, tant mieux. Il n'est pas d'emblée arrivé à la conclusion que ça serait obligatoirement la force, mais il l'exclut pas. Alors, on voit par exemple, vous parliez tout à l'heure de la guerre de Crimée. Eh bien, face à la guerre de Crimée, il a des positions qui sont très tranchées, et qui ne seront pas d'ailleurs retenues par ses supérieurs. Il dit par exemple qu'il faut profiter de cette guerre dans laquelle l'Autriche s'implique de plus en plus, puisque à la fin, l'Autriche sera l'alliée de la France et de l'Angleterre. Bon, elle n'entrera pas en guerre contre la Russie, mais elle sera l'alliée. Si la guerre avait duré, elle serait entrée en guerre probablement. Et il explique à ses supérieurs qu'il faut profiter de cette situation pour dire à Vienne, eh bien écoutez, c'est très bien, vous vous engagez de ce côté-là. Attention, si vous ne nous donnez pas satisfaction, si vous n'avez pas satisfaction à la Prusse, eh bien nous, nous entrerons en guerre contre vous, une alliance de revers, nous serons aux côtés de la Russie et nous réaliserons une alliance de revers contre vous. Évidemment, c'est une position qui n'est pas retenue par Frédéric Guillaume IV, qui dit à ce moment-là, d'ailleurs, c'est une idée à la Napoléon. C'est une formule intéressante et on retrouve la fameuse relation avec Napoléon III et le bonapartisme de manière générale. Et alors cette idée, on peut passer quelques années et on arrive à 1859, il reprend cette idée-là. Exactement, alors il n'y a pas davantage suivi. Mais il dit, l'Autriche est en guerre avec la France et avec le Piémont. Eh bien, au lieu d'aller offrir nos services à l'Autriche, ce que
la solidarité monarchique impose,
voilà,
en quelque sorte.
Exactement. Eh bien, au contraire, s'il faut aller jusqu'à l'alliance avec la France de Napoléon III pour satisfaire les intérêts de la Prusse, faisons-le. Et il prend comme exemple celui de Frédéric II, qui va attaquer l'Autriche de Marie-Thérèse en 1740. Donc, s'il faut frapper dans le dos l'Autriche, faisons-le.
Alors passons vite à l'année 1862. Il arrive au pouvoir,
voilà.
Et au fond, au bénéfice d'une crise. Et c'est une crise majeure. Et vous montrez dans votre livre que Bismarck constitue l'ultime carte de Frédéric Guillaume.
Oui, alors là, maintenant, c'est Frédéric Guillaume disparu, c'est son frère. C'est donc Guillaume Ier. Et effectivement, c'est une crise où la monarchie aurait pu sombrer, la monarchie prussienne aurait pu sombrer. Et
c'est Guillaume Ier, oui.
Guillaume Ier qui veut absolument réaliser une réforme militaire. C'est une des leçons qu'il tire notamment de cette guerre de 1859. Et cette réforme militaire, elle coûte de l'argent. Or, la Diète de Prusse, nous sommes maintenant dans un régime constitutionnel, pas parlementaire, mais constitutionnel, cette Diète de Prusse, elle refuse de voter les impôts nouveaux. Et aucune des deux parties n'en démord. Alors, on arrive évidemment à une impasse. Et l'impasse est résolue par Bismarck. Il dit à Guillaume, cette réforme, vous la souhaitez, bien nous allons la réaliser, c'est-à-dire que nous allons passer outre au refus, tout simplement, nous allons passer outre au refus de la Diète, nous lèverons l'impôt, même si la Diète ne les vote pas. Point à la ligne. Et pendant 4 ans, jusqu'en 1866, c'est ainsi qu'il va gouverner. Alors c'est une sorte de coup d'État blanc, si vous voulez, blanc dans le sens où il n'est pas sanglant, mais c'est un coup d'État qui est réalisé, un coup d'État constitutionnel ou anticonstitutionnel, n'est-ce pas ? Voilà les conditions dans lesquelles il arrive et les conditions dans lesquelles il gouverne pendant 4 ans. Et à partir de là, évidemment, on comprend très bien qu'il devient la bête noire des libéraux.
Mais les relations avec Guillaume Ier ne sont pas forcément bonnes. Ceci pour montrer finalement aux auditeurs que les choses ne sont pas faites de manière inéluctable. Bismarck a rencontré de nombreux obstacles et le pouvoir lui-même, un peu comme Louis XIII et Richelieu, les relations ont été bien difficiles. Je vous cite. À la veille de la journée décisive, les préventions de Guillaume à l'encontre de Bismarck ne sont pas tombées. Il ne s'est toujours pas rallié à son programme politique. Pis, il continue à voir dans son ambassadeur à Paris, donc Bismarck, un joueur imprévisible, pour ne pas dire un aventurier politique. Il confie le sort de la Prusse à un aventurier politique.
Oui, alors certes, après, il va y avoir la rencontre entre les deux hommes. Et pour partie, les préventions du roi vis-à-vis de Bismarck vont tomber. Alors, il faut ajouter que tout le milieu qui entoure le roi est très hostile à Bismarck. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. L'épouse, le fils, la belle-fille, tout ce milieu est hostile à Bismarck.
Alors, nous arrivons peu à peu à cette date de 1866. Il y a entre-temps cette affaire des duchés qui est un des nœuds. Quelques mots peut-être sur cette affaire des duchés.
Alors, c'est une affaire très complexe, mais disons que Bismarck a joué avec une grande maestria parce qu'il a amené l'Autriche à s'impliquer dans une affaire où elle n'avait, je dirais, rien à faire. Les duchés sont les duchés danois, c'est le Schleswig-Holstein. Donc on voit que le Schleswig-Holstein, c'est des centaines de kilomètres de l'Autriche, où les intérêts de l'Autriche ne sont absolument pas en jeu. En tout cas, les intérêts vitaux de l'Autriche ne sont pas en jeu. Et il a réussi à l'amener dans cette affaire. Et au fond, il préparait avec, on peut le dire si on veut, avec machiavélisme ou avec talent, mais c'est pas forcément contradictoire, il préparait un casus belli avec l'Autriche. Et c'est la grande leçon à tirer. L'autre leçon, c'est que la Prusse va annexer le Schleswig et le Holstein, les duchés danois. Donc ça, c'est pas non plus sans importance. Mais dans un premier temps, c'est cela. Il crée une situation politique presque inextricable et qui ne peut se résoudre que par un conflit avec l'Autriche.
Donc, est-ce qu'il pense là au conflit armé et uniquement au conflit armé ?
Non, sans doute considère-t-il que c'est probablement ce qui se passera. Mais Bismarck est quelqu'un qui a toujours plusieurs fers au feu. Ça, c'est une constante, à quelque moment que ce soit, de sa carrière, on le retrouve. Donc, on ne peut pas dire qu'il est arrivé à la conviction qu'il n'y avait pas d'autre issue. Mais, dans son esprit, c'était l'issue la plus probable. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Le conflit ne vienne pas. Eh bien, il aurait fallu d'abord que l'Autriche accepte la parité. Tout le moins, ça aurait repoussé le conflit. La parité en Allemagne. Et cela, l'Autriche n'était pas prête à l'accepter. François-Joseph s'y refusait. Et en fait, toute la politique qu'il a menée visait à maintenir la prééminence de l'Autriche en Allemagne. Donc, Vienne n'était pas prête à accepter la parité avec Berlin. C'était, je dirais, l'option minimale pour Berlin, pour Bismarck en tout cas, pour éviter un conflit armé, en tout cas au moins pour le repousser. L'Autriche n'a pas voulu et donc on est arrivé à ce conflit.
Vous dites que Bismarck mise sur le patriotisme des couches populaires. Est-ce que le sentiment de la petite Allemagne que défend Bismarck par opposition à la grande Allemagne autrichienne, est-ce que cette petite Allemagne est une réalité dans les consciences ou une volonté dans les consciences des couches populaires ?
Alors, je crois que la réalité est nuancée parce que, en fait, avant d'arriver à l'Allemagne, il y a des Allemagnes. Et il est évident que le paysan ou l'artisan bavarois ou le paysan badois ou rhénan, notamment, là nous sommes dans le monde catholique, a vis-à-vis des nationales une position le plus souvent différente de celle de Bismarck. C'est-à-dire que, pas du tout qu'il soit anti-national, pas du tout, mais il se place plutôt dans le cadre de la Grande Allemagne, précisément avec l'Autriche. L'Autriche, puissance catholique, c'est un élément essentiel du dossier. En revanche, dans les régions du nord de l'Allemagne, oui, on est beaucoup moins tourné vers l'Autriche, c'est normal. Cette tradition-là n'existe pas. Et oui, on peut être plus en phase avec Bismarck.
Alors, nous arrivons à cette date du 3 juillet 1866, la bataille la plus importante au regard de ses conséquences en Europe, la bataille la plus importante du 19e siècle. La première caractéristique de, finalement, cette guerre austro-prussienne, c'est sa rapidité.
Oui, et qui a surpris. Qui a surpris les observateurs.
L'Europe entière.
Oui, et les experts. D'ailleurs, les experts, c'est peut-être une caractéristique, les experts, il arrive souvent qu'ils se trompent, n'est-ce pas ? Je ne veux pas dire qu'ils se trompent toujours, mais enfin, il arrive souvent qu'ils se trompent. Et là, en l'occurrence, ils se sont trompés, parce qu'ils prévoyaient une guerre longue et ils prévoyaient une victoire autrichienne. Ils étaient tout le contraire. Ça a été une guerre courte et une victoire prussienne. Alors, qu'est-ce qui explique cette victoire, si on se place sur un plan militaire ? Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a la qualité de l'armement. Le fusil à répétition, les Autrichiens l'ont pas. Il y a ensuite la supériorité du commandement, qui est incontestable. Non pas que, par nature, les Autrichiens soient médiocres, c'est pas cela, mais il y a eu de grands stratèges chez les Autrichiens. Mais là, c'est pas le cas. Le général en chef, Benedek, est bon soldat, mais qui n'a pas la dimension pour conduire une armée, et puis qui ensuite a été formé en Italie, il connaît très bien l'Italie, mais il connaît pas du tout le front du Nord, la Bohême, la Moravie, qui est complètement perdu, et qui arrive avec la conscience de son infériorité. Alors, non, c'est une catastrophe, c'est évident. En face de lui, il a un état-major bien formé, sous l'autorité d'un grand chef, von Moltke, donc il y a un contraste. Et puis, on peut ajouter un autre élément qui n'est pas secondaire. La Prusse est déjà entrée dans l'âge de la guerre industrielle moderne, qui utilise les moyens de l'âge industriel, par exemple les chemins de fer.
Faut dire, nous ne l'avons pas évoqué, mais il y a toute la formation du Zollverein, auquel la Prusse participe pleinement tout au long du 19e siècle.
Et qu'elle dirige, en fait, qu'elle dirige, n'est-ce pas ?
Voilà. Et alors que l'Autriche, elle, ne fait pas partie du Zollverein.
Exactement.
Voilà. Ce qui lui donne cette avancée industrielle.
Bien sûr.
Alors, quelles sont les conséquences immédiates de cette victoire ? C'est ce que nous verrons, Jean-Paul Blett, dans un instant. À tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Nous entamons la dernière partie de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne et auteur d'une biographie Bismarck de la Prusse à l'Allemagne chez Alvic Éditions. Alors, nous en sommes à cette victoire de Sadova. Nous avons donné les différents éléments qui ont permis cette victoire. Et d'une manière vraiment étonnante, Napoléon III ne réagit pas.
Oui, ça peut paraître surprenant, disons après coup, bien sûr, puisque nous avons l'avantage de savoir ce qui va se passer après, donc évidemment, nous pouvons peut-être bouillir devant son inaction. Alors, son inaction, elle a tout de même certaines raisons, qui à l'arrivée ne sont pas de bonnes raisons, mais enfin, il y a des raisons. D'abord, il pense que l'Allemagne qui va sortir de cette guerre, ce sera encore une Allemagne divisée. Certes, simplifiée. C'est une Allemagne simplifiée dans son organisation par rapport à l'Allemagne de la Confédération germanique, les 39 États, etc. Mais ce sera une Allemagne divisée en trois blocs. Il y aura l'Allemagne du Nord qui irait jusqu'au Main, derrière le Main.
Incluant la Prusse, donc.
Incluant la Prusse et dominée par la Prusse. Ensuite, il y aurait l'Allemagne du Sud, c'est-à-dire le bloc Bavière, Württemberg, Bade, qui pourrait s'organiser avec l'aide de la France. Et en troisième lieu, il y aurait l'Autriche, parce qu'on n'imagine pas un seul instant que l'Autriche puisse être exclue, se laisse exclure ou reste exclue d'un système allemand. Donc nous aurions un système à trois blocs. Et évidemment, ça ouvrirait des possibilités d'arbitrage à Paris. Donc il se voit, il voit la France dans la position de l'arbitre des destinées allemandes. Ça, c'est le premier point. Le second point, alors là, on peut dire pour le premier qu'il y a une erreur d'analyse. Bon, on peut dire cela. Pour le second point, eh bien, il n'a pas vraiment les moyens de réagir, les moyens militaires. Parce que le gros de l'armée française, il est au Mexique à ce moment-là. Et ça pèse très lourd. Donc les moyens qu'il pourrait mobiliser seraient relativement limités et permettraient sans doute pas de renverser la tendance. Alors, il a commencé par pencher dans le sens d'une intervention, et puis assez vite, il a renoncé, et donc a fait le choix que je viens de dire, alors même que François Joseph a envoyé auprès de lui un émissaire pour demander son intervention.
Alors revenons-en à Bismarck. Bismarck prévoyait le suicide, nous en discutions avant cette émission, en cas de défaite à Sadova, et immédiatement après cette victoire, se révèle le grand politique, et il y a un terme que vous utilisez à plusieurs reprises dans votre biographie, c'est le terme d'ambivalent. Bismarck n'est pas un bout de feu, les militaires voudraient aller jusqu'à Vienne, mais lui, il dit non. Après avoir vaincu l'Autriche à Sadova, il faut la préserver.
Absolument. Et il fait la démonstration qu'il est un grand homme politique à ce moment-là. Parce que la pente naturelle des choses, c'est après une victoire comme celle-là, eh bien qu'elle soit conclue par l'entrée des vainqueurs dans la capitale du vaincu, et aussi, ce qui est encore plus important, l'annexion de territoire pris sur le vaincu. Et là, on pouvait imaginer, par exemple, la cession de territoire pris en Bohême. Et ce qui était d'ailleurs réclamé par le roi, réclamé par les militaires, par von Moltke, évidemment. Et Bismarck s'est battu.
Il était prêt de donner sa démission,
exactement,
comme l'a fait 10 fois Richelieu à l'égard de Louis XIII.
Voilà, exactement. Et c'est intéressant, d'abord, parce qu'il avait compris que une fois que la question allemande serait réglée, il n'y avait plus de conflit entre l'Autriche et la Prusse. Bien sûr, l'Autriche pouvait ne pas accepter sa défaite et la revanche pouvait la conduire à ouvrir le conflit plus tard. Bon, mais précisément, pour cette raison, il fallait ne pas lui donner de raisons supplémentaires. Donc, ne pas l'humilier en faisant entrer l'armée prussienne à Vienne, en prenant des territoires, à ouvrir le conflit plus tard. Mais précisément, pour cette raison, il fallait ne pas lui donner de raisons supplémentaires. Donc, ne pas l'humilier. En faisant entrer l'armée prussienne à Vienne, en prenant des territoires, on l'humiliait. Et donc, à ce moment-là, on ouvrait la possibilité d'une guerre de revanche. Et je ne dis pas qu'il a déjà en vue le traité d'alliance de 1879 entre l'Allemagne et l'Autriche. Mais en tout cas, comme il n'exclut rien, comme il a toujours cette idée de plusieurs fers au feu, eh bien, c'est certainement une possibilité qu'il n'exclut pas. Il y a aussi la question des relations avec le roi. Et là, il y a une crise très forte, mais c'est une crise parmi d'autres. Car l'histoire des relations entre Guillaume Ier et Bismarck, c'est l'histoire de crises récurrentes. et des conflits, pour ainsi dire, que Bismarck gagne toujours. À la fin des fins, Guillaume s'incline. Mais ce sont des conflits qui peuvent être très durs, violents verbalement. Pas physiquement, bien entendu, mais violent verbalement. C'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. À la même époque, il y a François Joseph. Imaginons qu'un ministre de François Joseph lui ait tenu le dixième des propos que Bismarck a pu tenir à Guillaume, il était congédié sur l'heure.
Alors, cette question autrichienne est très importante parce que, au fond, faire de Bismarck un précurseur d'Hitler est une erreur. Ce que fait Hitler en 38, Bismarck n'y pense même pas à cette époque.
Absolument. Et non seulement il n'y pense pas à ce moment-là, mais il n'y pense pas davantage par la suite. Parce que, par la suite, il va y avoir, en Autriche, là je parle des années 80, 90, il va y avoir un courant parmi les Allemands d'Autriche favorable à ce qu'on appellera plus tard l'Anschluss. Et il lui arrivera de recevoir des délégations d'étudiants qui sont enflammés, etc. Et qu'est-ce qu'il leur dira ? Eh bien, il leur dira que ils doivent loyauté à leur empereur, François-Joseph. Et donc, il écarte totalement l'idée d'une entrée de l'Autriche allemande dans le Reich. Donc, aux antipodes de ce que fera Hitler, évidemment.
Alors, cette ambivalence se retrouve aussi en politique intérieure, car les conservateurs vont se dire « Eh bien, nous allons voir la voie libre ». Il n'en sera rien, et les libéraux, eux, vont voir qu'au fond, leur bête noire, eh bien, réalise l'unité dans le temps désiré.
Oui, exactement. Et oui, les conservateurs pensaient qu'après cette victoire, eh bien, les libéraux étaient complètement écrasés et qu'il fallait en profiter. Eh bien, Bismarck a un tout autre comportement. C'est pas du tout qu'il aime les libéraux, le libéralisme, mais il a une vision politique. Et il estime qu'il faut maintenant mettre un terme au conflit qui a opposé la Diète au pouvoir gouvernemental. Et comment faire ? Bah, tout simplement en obtenant de cette Diète un vote qui cautionne ce qui a été décidé auparavant. Bon, et ce qui légalise, et du même coup, on rentre dans les chemins de la légalité. Or, les conservateurs, eux, dans leur majorité, considéraient qu'il fallait plutôt en profiter pour tordre le cou à la Constitution.
Oui, parce qu'en plus, il annexe Francfort, donc c'était un symbole de la lutte contre le libéralisme.
Absolument, bien sûr, puisque Francfort, ça renvoie au Parlement de Francfort, donc à la tradition de la Révolution de 48, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il instaure ? Il y a une nouvelle constitution
Donc la constitution du Reich en 1871, le Reich qui est proclamé le 18 janvier 1871 à Henri des Glaces, qui conclut donc la guerre franco-allemande, et cette constitution qui établit un régime mixte également, là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est un régime constitutionnel, mais c'est pas un régime parlementaire. Et il aura toujours le souci d'éviter un basculement vers un régime parlementaire. Et c'est ce qui fera l'originalité de l'Allemagne dans l'Europe de cette époque, où l'on voit progressivement un nombre de plus en plus grands États passer de régimes constitutionnels à des régimes parlementaires. Là, ce n'est pas le cas. L'Allemagne va rester un régime constitutionnel mais non parlementaire jusqu'en 1918.
Alors, vous mettez en parallèle les deux expressions révolutionnaire blanc ou réactionnaire rouge.
Bien, oui, parce que, bien sûr, par sa sensibilité, ses attaches, il appartient au monde. On a parlé tout à l'heure des Juncker, n'est-ce pas ? Bon, c'est tout un système de valeurs dont il participe. Et cela reste vrai jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en 1898. À côté de cela, par les moyens qu'il utilise, eh bien, il n'est pas qu'un ultra ou un conservateur. Il utilise les moyens des libéraux. Également, il utilise le suffrage universel, avec l'idée peut-être que le suffrage universel aussi pourra réduire le libéralisme. Mais en tout cas, il utilise les moyens de la révolution avec un grand R. Et on pourrait dire la même chose d'ailleurs sur le plan extérieur. En 66, il est prêt à faire alliance avec des révolutionnaires contre l'Autriche, avec, par exemple, avec Kossuth, qui est toujours vivant. Il y a toute une tradition hongroise hostile aux Habsbourg, et il est prêt à les utiliser,
comme Napoléon III d'ailleurs, était prêt à le faire en 1859. Et on retrouve certaines relations entre les deux hommes. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine manière, cela conforte la thèse de ceux qui voient dans Bismarck et le bismarckisme une variante du bonapartisme. Bonapartisme, c'est effectivement une alliance d'une tradition monarchique et puis également de courants libéraux, voire démocratiques.
Eh bien, Jean-Paul Bled, c'est sur cette intelligence politique, cette ambivalence que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Je renvoie à nos auditeurs à votre œuvre, à votre François-Joseph, paru chez Fayard, à votre Frédéric de Prusse, à l'émission également sur la médiathèque de Canal Académie consacrée à Frédéric de Prusse. Vous venez de publier Bismarck de la Prusse à l'Allemagne chez Alvic Édition. Et il y a aussi votre texte sur Bismarck disponible sur le site asmp.fr. Merci et à très bientôt.